France Info.
Il faut donc rester prudent. Au niveau des températures, ce matin, il fait entre 2 et 3 degrés sur les régions les plus à l'est. C'est là où il fait le plus froid. Souvent 8 degrés à l'intérieur du pays et jusqu'à 10, 11 près des côtes atlantiques et méditerranée.
Et merci Christine Peña et merci de commencer la journée avec nous sur France Info en ce jeudi 19 février. Bon réveil, il est 5 heures. Et à la une ce matin, ces crues qui n'en finissent pas depuis une semaine. L'ouest de la France vit au rythme des évacuations et des opérations de prévention. Direction le Maine-et-Loire et Lot-et-Garonne, deux des quatre départements en vigilance rouge. La mort du militant identitaire Quentin de Ranque, utilisé par le Rassemblement National pour viser la France insoumise. Les données bancaires de plus d'un million de Français consultées par un acteur malveillant. Enfin, l'Olympique de Marseille a un nouvel entraîneur et il connaît bien le club. Habib Bey, ancien joueur, prend les commandes. Pour faire face aux crues et aux inondations qui touchent l'ouest de la France, des opérations de prévention peuvent être organisées. Des opérations surprenantes, comme à Angers, dans le Maine-et-Loire, département en vigilance rouge, où les tunnels qui bordent la Maine ont été préventivement inondés hier. Faustine Calmel, c'est en fait un moyen de préserver les installations.
Sous la pluie qui ne cesse de tomber, un agent des routes du département s'approche d'une vanne en haut des quais.
Là, du coup, on ouvre la trappe qui va permettre à l'eau de s'engouffrer dans la canalisation pour remplir la trémie en dessous.
La trémie, c'est le tunnel des voies sur berge qui, effectivement, on descend le constater, se remplit d'eau venue directement de la Maine. 1250 mètres cubes, une demi-piscine olympique déversée pour cette première opération. Le but, c'est de lester, en quelque sorte, le tunnel pour lutter contre la pression exercée de l'autre côté du mur et en dessous par la rivière en crue. Christophe Devoile est le directeur adjoint des routes départementales du Maine-et-Loire.
Donc le risque de la poussée d'Archimède qui s'exercerait par en dessous, c'est de venir déstructurer l'ouvrage, décoller le tunnel de son ancrage et donc apporter des déformations structurelles qui pourraient remettre en question soit la sécurité des usagers, soit amener des coûts de réparation importants.
Cette opération a été réalisée la dernière fois il y a 30 ans pour la crue référence de 1995 et sera répétée en fonction de la montée du niveau de la Maine.
Si elle continue à évoluer vers le haut, on remplira de plus en plus la trémie pour apporter de plus en plus de poids. Et à l'inverse, si on observe une décrue, on pourra travailler à la réouverture des voies, donc par le pompage de l'eau pour la renvoyer dans la Maine.
Cela peut prendre plusieurs jours selon le volume d'eau avant réouverture à la circulation.
Le préfet demande à la population de privilégier le télétravail et de suspendre les déplacements non essentiels dans le Maine-et-Loire. Trois autres départements sont en vigilance rouge, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne, où la pluie continue de tomber. La décrue est longue à arriver. Si des villages entiers ont les pieds dans l'eau, c'est aussi le cas de terres agricoles. Certains agriculteurs sont désespérés face à la situation, comme Sonia qui produit des fraises à Sénestis près de Marmande. Vous l'avez rencontré, Faouzi Trita.
Debout, le regard tétanisé, Sonia fixe ses terres immergées.
C'est catastrophique, c'est cataclysmique, une scène d'horreur. On se croirait dans un film d'horreur.
La Garonne a éventré une partie de la digue et l'eau marron se déverse sans interruption sur ses terres. Dans les serres, l'eau est montée jusqu'à mi-hauteur, les plantations de fraises sont noyées, les tuyaux de goutte à goutte arrachés, les bâches déchirées.
Ça fait depuis décembre que j'y travaille dessus. On a nettoyé, on a planté. J'étais presque à la récolte. Fin mars, j'allais commencer à récolter. Donc la récolte s'approchait. J'avais la garriguette qui était en fleurs. Mon porte-monnaie, il est là. C'est ça qui me remplit mon frigo. Et là, j'ai plus rien.
Sonia reste immobile. Elle pense à sa famille.
C'est pas que mon âme, c'est l'âme de mes ancêtres. Puisque mon papa à travailler là, avec mon grand-père. Donc je suis la troisième génération. C'est d'autant plus dur que j'espère que je vais pouvoir continuer à travailler et que je m'en sortirai. Ça va être dur. Déjà, j'aimerais que ça s'arrête, que ça finisse.
Elle espère une aide des banques et de l'État, mais pour l'instant, tout est suspendu à une seule condition, que la Garonne accepte de regagner son lit.
Le reportage de Faouzi Trita pour France Info. La circulation des trains est aussi perturbée en Nouvelle-Aquitaine avec l'arrivée de la tempête Pedro. Cela va durer jusqu'à demain matin. Des rafales de vent peuvent atteindre les 100 km/h sur le littoral. France Info en édition spéciale crue. Tout au long de la journée, nous serons à la Réole en Gironde. Une semaine après le passage à tabac de Quentin Derenck, qui a succombé à ses blessures, l'enquête avance autour de la mort de ce militant identitaire. 11 personnes sont toujours en garde à vue, dont 2 assistants parlementaires du député La France Insoumise Raphaël Arnaud. L'un d'eux, Jacques-Élie Favreau, reconnaît sa présence sur les lieux et la commission de violence. Une affaire avec un retentissement politique important. Hier, le Rassemblement national tenait une conférence de presse. Le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, qui utilise la mort de l'étudiant Pierrick Bonneau.
Seul face aux journalistes, Jordan Bardella attribue à la France Insoumise toute la responsabilité du climat de violence. L'extrême gauche a tué ce week-end, dit-il. Le patron du RN, qui a les yeux rivés sur les municipales, retourne contre le parti de Jean-Luc Mélenchon, une arme dont les lepénistes sont traditionnellement victimes.
J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France Insoumise et la tenir à l'écart des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale où ses députés siègent dans de nombreuses instances ou en vue des prochaines élections municipales.
Jordan Bardella appelle à constituer un front commun contre la France Insoumise qui n'est pas sans rappeler le Front Républicain qui s'est dressé contre lui aux législatives de 2024. Les Insoumis devenus objet de diabolisation du patron du RN qui tente de réhabiliter son propre parti.
Le Rassemblement National et son prédécesseur n'ont jamais appelé à la violence en politique. Ils ont toujours été respectueux du processus électoral.
Mais il oublie un peu vite les liens que le FN, devenu RN, a longtemps entretenus avec les dirigeants du GUD, groupuscule d'ultra-droite, qui prônait bien la violence jusqu'à sa dissolution il y a 2 ans. Alors que les projecteurs sont braqués sur la France Insoumise, Jordan Bardella fait diversion.
Pierrick Bonneau, service politique de France Info. Les données bancaires de plus d'un million de Français consultées de manière illégitime depuis fin janvier. Le ministère de l'Économie en fait l'annonce. Hier, Renaud Blanc, l'accès aux informations reste toutefois limité.
Oui, c'est le fichier national des comptes bancaires qui a été piraté, le fichier FICOBA. Les données peuvent concerner les coordonnées bancaires, RIB, IBAN, l'identité du titulaire, l'adresse et, dans certains cas, l'identifiant fiscal de l'usager. Mais selon la Direction générale des finances publiques, ce fichier FICOBA ne permet pas de consulter les soldes des comptes bancaires et, a fortiori, de faire des opérations. L'attaque a débuté en janvier grâce à l'usurpation des identifiants d'un fonctionnaire de Bercy qui avait accès à ce fameux fichier. Dès la détection de cet incident, assure le communiqué du ministère de l'Économie, des mesures immédiates de restriction d'accès ont été mises en œuvre afin de stopper l'attaque, d'en limiter l'ampleur et de prévenir toute nouvelle consultation illégitime. Les titulaires de comptes concernés devraient recevoir dans les prochains jours une information individuelle les alertant qu'un accès à leurs données a pu être constaté. Le ministère qui précisait toujours hier soir que ses équipes informatiques restaient pleinement mobilisées.
Les précisions de Renaud Blanc. Les femmes sont de plus en plus présentes dans les instances dirigeantes de nos entreprises. Elles sont 30% de femmes dans les grands groupes, mais occupent souvent les mêmes positions, comme directrice des ressources humaines ou du développement durable, tandis que les hommes sont plus souvent directeurs financiers, par exemple. Et dans les 120 plus grosses entreprises françaises, seules 12 femmes sont directrices générales. Habib Bey est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille en football. L'ancien joueur de l'OM s'engage pour 1 an et demi et sera à l'entraînement dès aujourd'hui pour un premier match demain à Brest. Habib Bey, qui était encore entraîneur de Rennes il y a 10 jours, doit désormais redresser l'équipe. Mais tous les supporters ne sont pas convaincus, Bruno Blanza.
On entend déjà la principale critique fondée qu'il va devoir retourner. Son manque d'expérience au haut niveau. Car Bey, c'est 1 an en Ligue 1, 34 matchs, à cheval sur 2 saisons. Au Stade Rennais, club ambitieux qu'il a su redresser, mais club incomparable avec ce qu'est l'OM. Pour le reste, l'ancien défenseur coche pas mal de cases. Il connaît Marseille, la ville, la passion et la pression qui règne à porter le brassard de capitaine de l'OM. Il connaît la Ligue 1, ce qui n'est vraiment pas rien. Et par le français, un vrai soulagement pour des supporters, contents de voir la barrière de la langue tombée après 6 entraîneurs étrangers sur les 7 derniers techniciens olympiens. Le défi est de taille pour l'ancien défenseur du club. Carbeil débarque dans un OM en crise, sans président, avec un vestiaire dans le dur, un directeur du football qui ne sera plus là dans 4 mois et des supporters qui attendent une réaction. Mais un OM qui peut encore aller chercher une qualification pour la Ligue des Champions et soulever la Coupe de France pour une saison qui, au final, peut être historique.
Bruno Blanza, ici Provence pour France Info. Enfin, Jeux Olympiques de Milan, Cortina, la France est quatrième au tableau des médailles ce matin avec un cinquième titre décroché hier en biathlon par les femmes sur le relais. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve fait son entrée au jeu, le ski alpinisme, sorte de ski de randonnée. Quatre Français sont en lice pour trois courses. 5h09 sur France Info, Christine Peña, la météo. Et c'est l'amélioration qui se fera progressivement à partir de ce soir.
Mais oui, les averses commenceront à s'espacer de plus en plus à partir de ce soir, effectivement, et l'amélioration sera alors en route avec des températures de saison pour aujourd'hui. Les maximales cet après-midi atteindront les 10 degrés au nord, 12 dans le sud-ouest et les 14 en Méditerranée. Mais le programme est encore lourd pour aujourd'hui avec des précipitations nombreuses, des cours d'eau qui continuent de monter, le vent qui souffle en tempête dans le sud-ouest jusqu'en Méditerranée et la neige qui tombe vraiment en quantité en montagne.
Merci Christine Peignan, on vous retrouve dans moins de 20 minutes.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
À la une, un conseil de défense qui se tient à l'Élysée.
Bruxelles hausse le ton face à Téhéran.
Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire.
À tout moment, il vous suffit de demander.
Mais France Info.
À la une également ce soir, le Premier ministre qui dégaine l'article 49.3.
Des rassemblements contre la nouvelle loi du plomb.
La présidentielle 2027 aiguise les appétits à gauche.
Sur les assistants vocaux,
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
Avant 5h30, nous reviendrons sur ces 11 personnes interpellées et toujours en garde à vue, près d'une semaine après les violences qui ont conduit à la mort du militant identitaire Quentin de Ranc à Lyon. Mais d'abord, ces crues exceptionnelles qui touchent la France.
France Info, 5h-6h, Jeanne Mézia.
Et France Info en édition spéciale tout au long de la journée depuis l'Aréole en Gironde où la Garonne a commencé à déborder il y a 8 jours. Le département en vigilance rouge pour crue et les pluies ne s'arrêtent pas avec cette nouvelle tempête Pedro. À Bordeaux, de premiers débordements ont eu lieu sur la rive gauche de la ville. Alors le maire Pierre Urmic a décidé d'activer le plan communal de sauvegarde. C'est une première dans la commune depuis la tempête de 1999.
Consiste à protéger le plus possible, assurer la sécurité des Bordelaises et des Bordelais, d'abord par des mesures de communication de proximité exceptionnelles, donnant des consignes de sécurité, la conduite à tenir qui a été adressée aux riverains de l'ensemble des secteurs concernés par ces inondations, c'est-à-dire essentiellement en bordure de la Garonne. J'ai également mis en place un numéro vert, ouvert à toutes et à tous en continu jusqu'à la fin de l'alerte et également des dispositifs de mise à l'abri des habitants qui auraient besoin d'un accueil d'urgence dont j'ai prévu pour le moment 2 sites municipaux, un gymnase sur la rive droite et une salle municipale sur la rive gauche et également je pense à la mise à l'abri des personnes vivant à la rue. C'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un gymnase, le gymnase promis en lien avec le 115 pour leur permettre de trouver un abri.
Quelle est la situation au sein même donc de la ville de Bordeaux, on le sait, avec évidemment la Garonne. Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce que l'eau va monter? Quelles sont les informations dont vous disposez?
Deux informations. La première, c'est que nous attendons un pic vers 7h40. C'est l'heure qui nous a été précisée comme étant le pic de l'alerte crue. Et un niveau d'eau qui pourrait s'élever à 5,14 mètres NGF, c'est leur système de comptabilité. Et voilà, donc c'est assez inquiétant. Nous, on a pris des mesures jusqu'à 5,20 mètres. On est allé au-delà de ce qui nous indiquait comme étant le niveau d'alerte. Mais voilà, pour le moment, les informations que nous avons. Le vent souffle fort, il faut dire que nous avons la conjonction de plusieurs éléments climatiques en même temps. D'abord, les fortes pluies, des vents plutôt violents, et également la tempête Pedro qui s'est déclenchée en milieu d'après-midi, et aussi la conjonction de forts coefficients de marée. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui sont inquiétants et qui se conjuguent pour susciter les mesures fortes que nous sommes amenés à prendre.
Est-ce que la ville de Bordeaux, Pierre Urmic, est équipée, préparée à ce type d'événement?
La ville de Bordeaux est très très mobilisée. Nous avons monté une cellule de crise qui travaille de façon très transversale et j'ai pu voir, par avoir participé à ces travaux, la mobilisation des agents de la ville, y compris les policiers municipaux qui sont sur les terrains inondables. Donc tout le monde était extrêmement, extrêmement mobilisé. Et pour tout vous dire, le week-end dernier, j'avais proposé aux communes du Sud Gironde, comme La Réole, qui sont particulièrement impactées, bien avant nous, par ces crues et ces inondations, de mettre à leur disposition des agents de la ville pour les aider à affronter ces événements climatiques. Et concernant ces événements climatiques extrêmes, oui, bien évidemment, tous les climatologues nous disent qu'ils sont appelés à se multiplier, surtout à devenir de plus en plus denses, de plus en plus fréquents, de plus en plus violent, et je pense que cela fait partie des réponses que nous devons apporter à l'urgence climatique et à ces événements extrêmes. Et bien évidemment, nous nous y préparons pour ne pas être pris au dépourvu, de même que on a de plus en plus des étés caniculaires à Bordeaux, et que nous avons des dispositifs aussi d'urgence chaque fois que des canicules se déclenchent sur le territoire de la ville.
Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, avec Julien Langlais. En plus de la Gironde, trois autres départements sont en vigilance rouge pour crues, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Et en tout, 21 départements sont au moins concernés par une vigilance orange. Le détail est sur franceinfo.fr. Et je vous rappelle que France Info sera en édition spéciale toute la journée depuis La Réole en Gironde. 11 gardes à vue toujours en cours ce matin après la prolongation des 9 premières hier soir, une semaine après le passage à tabac de Quentin Derenc à Lyon. Militant identitaire mort des suites de ses blessures, l'enquête se poursuit. Bonjour Aurélien Tirard.
Bonjour.
Avec ces interpellations, on apprend que Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député insoumis du Vaucluse Raphaël Arnaud, reconnaît sa présence sur les lieux de l'agression.
Oui, c'est son avocat qui le déclare au micro du correspondant de France Info à Lyon, ce même avocat qui, ces derniers jours, assurait exactement le contraire. Mais voilà, en garde à vue, Jacques-Élie Favreau reconnaît donc sa présence sur les lieux où Quentin Derenc a été frappé à mort jeudi dernier. Il reconnaît, je cite, « la commission de violence », assure encore son avocat à la sortie du commissariat, tout en ajoutant que son client n'est pas l'auteur des coups qui ont provoqué le décès du militant nationaliste. Deux premiers aveux qui interviennent, je cite toujours l'avocat Bertrand Saint, devant la gravité de ce drame. Jacques-Élie Favreau souhaite, dit-il, adopter une conduite digne. Ses premiers aveux en garde à vue ont-ils été spontanés, formulés par un homme confronté à des éléments à charge? On n'en sait pas plus pour l'instant.
Et plutôt dans la journée hier, on apprend aussi qu'un deuxième collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud est en garde à vue dans cette affaire.
Oui, son rôle auprès de Raphaël Arnaud, c'est de gérer ses relations avec la presse. Il a été interpellé lors de la première vague d'arrestation et ce que la police lui reproche, c'est d'avoir caché une ou des personnes qui sont suspectées d'avoir agressé Quentin Derenc. Des faits beaucoup moins graves que ce reproché à Jacques-Élie Favreau, entendu lui pour homicide volontaire. Ce n'est donc pas le cas pour ce deuxième collaborateur parlementaire en garde à vue, soupçonné d'avoir caché les principaux suspects. Et cela comme trois autres personnes, ils sont entendus pour non mise à disposition de moyens pour se soustraire aux recherches.
Et Aurélien, le but des enquêteurs est désormais de comprendre le rôle de ces 11 suspects dans l'agression qui a conduit à la mort de Quentin Derenc.
Oui, qui a fait quoi? Qui parmi les 7 principaux suspects, tous présumés innocents, sont soupçonnés d'avoir porté les coups de pied, les coups de poing à la victime, des coups qui ont causé un trauma crânien à l'étudiant de 23 ans et qui ont causé sa mort? Qui encore a assisté au meurtre sans porter assistance aux militants nationalistes? On le voit, de premiers aveux interviennent. Les policiers peuvent aussi compter sur la vidéosurveillance des rues de Lyon et aussi sur de nombreuses vidéos de riverains diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées, et aussi sur les auditions de témoins.
Les précisions d'Aurélien Tirard du service police-justice de France Info. À suivre, quel avenir pour la manufacture des émaux de Longwy en Lorraine? L'audience aujourd'hui au tribunal de commerce a lieu avec 34 postes en jeu. Ce sera juste après l'essentiel de l'info.
France Info, 5h-6h.
Et bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
L'info en une minute à 5h18 avec vous. Ce sont 4 départements qui sont toujours en vigilance rouge au cru.
La Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. 14 sont en orange pour cru encore. Certains sont aussi concernés par une vigilance orange vague submersion. Cela est dû au passage de la tempête Pedro et aussi aux grandes marées en cours. Jacques-Élie Favreau reconnaît avoir commis des violences la semaine dernière à Lyon et était bien présent lorsque le militant identitaire Quentin Derenc a été tabassé à mort. Celui qui était il y a encore quelques jours assistant parlementaire d'un député de la France Insoumise affirme cependant qu'il n'a pas donné de coup mortel. L'information avait été démentie par la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, mais plus de 13 000 foyers français fortunés ne paient pas d'impôts sur le revenu. Ces chiffres viennent d'être obtenus par la Commission des Finances du Sénat. Ce sont des contribuables qui ont des gros patrimoines immobiliers. La France est quatrième au tableau des médailles des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, 17 médailles au total. Et il y a encore des chances de médailles françaises cet après-midi en ski alpinisme chez les femmes et chez les hommes.
France Info. L'avenir d'une entreprise en jeu aujourd'hui, tout un symbole pour la Lorraine. La manufacture de Longwy fabrique des objets en céramique depuis 1798, mais a été placée en redressement judiciaire en septembre 2024. Une audience a lieu aujourd'hui au tribunal de commerce. Et parmi les projets de reprise, il y a celui du propriétaire actuel, Martin Pietri, qui a récolté 900 000 euros grâce à une cagnotte en ligne Margot Croison pour sauver l'entreprise.
Quand il a lancé la cagnotte, Martin Pietri, le patron de la manufacture des émaux de Longwy, ne s'attendait pas à récolter autant d'argent.
Ça donne de l'énergie, en fait. Non seulement on se bat pour sauver la manufacture, pour sauver les emplois, mais en plus, quand vous sentez que vous êtes soutenu par un élan, malgré les obstacles, les difficultés, etc., à moi, ça m'a boosté.
Pour aider la manufacture, en plus des dons, les clients peuvent aussi acheter deux petites tortues dorées à 99 ou 190 euros. Selon le modèle. Exposées sur le comptoir devant la caisse, elles sont devenues le symbole de cette solidarité.
On en aura vendu plus de 5000. Ah oui, oui. Oui, on a vendu plus de 5000 petites tortues. Donc c'est une armada de petites tortues qui va nous soutenir. Et ça, ça fera partie d'un petit trésor. Je pense qu'elle va continuer à nous accompagner pendant longtemps.
Avec cet argent et une aide de la région Grand Est, le patron va pouvoir présenter un plan de reprise devant le tribunal de commerce. Assise dans l'atelier au milieu des vases des dépôts à bougies. Catherine s'occupe des finitions. Ça fait 40 ans qu'elle travaille ici, comme sa mère avant elle.
Petite, je courais dans les ateliers. Mes enfants ont couru dans les ateliers ici. Ça fait chaud au cœur. On est un peu stupéfait. On ne s'attendait pas à un élan de solidarité aussi fort que ça. C'est une vieille manufacture. Elle va bientôt fêter ses 230 ans. On espère qu'elle va encore perdurer des centaines et des centaines d'années après nous.
Allons-y, impossible d'imaginer la ville sans sa manufacture. Julien habite dans la rue juste à côté de l'entreprise.
Ça représente le grand Longwy du temps des usines. Je pense que surtout à Longwy, c'est peut-être l'une des seules fiertés qu'on ait, étant donné que les usines sont parties. Donc, vous voyez les belles fleurs de pommier, c'est connu partout, quoi. Toute une famille longovicienne a au moins deux ou trois émaux chez lui, quoi. Les fleurs de pommier, les vases, les petites boules. Mon papa a un chat, on en a pas mal. Ouais.
Et pour aider la manufacture des émaux de Longwy, Julien lui prévoit d'investir dans l'entreprise en achetant une action à 120 euros.
Un reportage pour France Info de Margot Croison. 5h22, c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un pianiste ce matin au micro d'Élodie Suigo.
Bonjour Kenny Barron.
Hello.
À 82 ans, vous êtes sans conteste l'un des plus grands pianistes au monde, classé maître de cet instrument aux touches noires et blanches. À votre contact, dès que vos mains se posent dessus, nous ne pouvons que nous incliner, délecter la maîtrise d'une part, mais aussi d'autre part, votre capacité à inventer et même à transcender les partitions au point de les réinventer. Vous avez d'ores et déjà joué avec les plus grands en collaboration en sideman ou en leader avec les légendes Dizzy Gillespie. C'est d'ailleurs lui qui vous a découvert, ou Chet Baker, Stan Getz, Youssef Latif, Benny Carter, Joe Anderson. Aujourd'hui, vous nous offrez encore un autre visage avec votre premier album entièrement vocal, Kenny, son titre Songbook, soit 13 compositions confiées à des grandes voix marquantes du jazz actuel. N'est-ce pas, Kenny Barron, votre projet le plus ambitieux et donc l'album qui vous raconte le plus?
Alors, moi, j'aimerais penser que tout ce que je fais est intime et personnel, mais cela dit, oui, c'est un projet ambitieux pour moi. Il fallait sélectionner les chanteurs qui m'intéressaient et ça a pris pas mal de temps. Pour 30 ou 40 de mes chansons, il fallait que je fasse le tri, que je trouve celles que je voulais enregistrer, trouver celles qui pourraient fonctionner avec un chanteur ou une chanteuse. Mais c'était un projet très sympa, mais c'était aussi très personnel.
Vous avez mis 30 ans à lui donner naissance à ce projet. Pourquoi avoir mis autant de temps alors à nous le livrer, à nous l'offrir?
Alors ça a pris tellement de temps parce que mon ami Janice Jarrett, qui a composé les paroles, elle a commencé à les écrire il y a 30 ou 40 ans, effectivement, et on a commencé à parler d'un livre qui contiendrait mes chansons et ses paroles, et ça a changé, c'est devenu un projet en tant que tel avec des chanteurs, des chanteuses, et je pense que ça a pris tellement de temps dans le fond parce qu'il m'a fallu du temps pour que j'assemble tout ça dans ma tête, et je crois que ça a marché et j'en suis très content, je suis très content des résultats. Et mais en fait il reste une vingtaine de chansons, elles n'ont pas encore été enregistrées, alors j'aimerais bien m'en occuper bientôt.
Kenny, je voudrais qu'on parle de vous. Vous, enfant, vous êtes né en 1943, ça on le sait, à Philadelphie, ça on le sait aussi, à une époque, on va pas se mentir, où la discrimination raciale était omniprésente. C'était quoi la bande-son musicale de cette enfance? Alors, à quel moment vous découvrez, vous rencontrez le piano?
Alors, on a toujours eu un piano à la maison, et j'avais deux frères et deux sœurs. Ma maman a insisté que tout le monde étudie le piano. On suivait tous des cours de piano. Moi, j'ai commencé, je crois que j'avais 6 ans, aidé par le fait que mon grand frère est aussi devenu un musicien. Bill, il m'a aidé énormément en ce qui concerne l'inspiration et la musique. Et en fin de compte, on a commencé à jouer ensemble. Et c'est lui qui m'a trouvé mon premier travail à Philadelphie. Je jouais avec le même groupe que lui, avec des personnes plus âgées que moi. Et j'ai fait tout ça avant de déménager pour New York en 1961.
Je voudrais savoir pourquoi le jazz ? Parce que effectivement, vous touchez à tout, Kenny. Mais il y a quand même une affection particulière pour le jazz, qui est quand même, sans conteste, la discipline la plus difficile.
J'ai reçu beaucoup d'aide. Par exemple, mon frère avait une collection de disques énorme de Dizzy, de Charlie Parker, Fats Navarro, Dexter Gordon. Et moi, j'avais l'habitude d'écouter ces disques tout le temps. Et également, à Philadelphie, il y avait une station de radio qui passait du jazz 24 heures sur 24. Et ça, c'était au début des années 50. Si j'étais à la maison, la station de radio jazz était allumée. J'écoutais de la musique constamment. Le jazz a été mon professeur. À un certain moment, j'ai entendu Tommy Flanagan. Et je crois que c'est devenu ma plus grande influence. Ce qui était important pour moi, c'était son doigté qui était vraiment très léger, très délicat et un sens très fluide de l'improvisation que je pourrais même pas vous décrire, mais quelque chose qui coule vraiment de source. C'est ma meilleure façon de décrire ça.
Que représente cette carrière avec ses 11 nominations aux Grammy, certes, mais surtout ce titre de reconnaissance suprême, le NEA Jazz Master, reçu en 2010, donc la plus haute distinction réservée aux musiciens de jazz aux États-Unis.
Je suis très reconnaissant d'avoir vécu aussi longtemps que ça m'ait permis de faire tout ça. Je crois qu'il reste encore d'autres choses à faire. Je n'ai pas fini pour l'instant. Je crois que mon objectif n'est pas d'accomplir en tant que tel, c'est pas tellement ça, c'est plutôt essayer d'influencer, d'affecter les choses. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est, je veux que les gens ressentent la musique.
Merci beaucoup Kenny Barron d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Songbook, votre rêve et envie depuis 30 ans, votre premier album entièrement vocal est donc disponible. Merci beaucoup.
Thank you for having me.
Why the look when they glance as they pass me by? In a rush, they're gone, maybe wondering why I go at a pace that seems too slow. I go at a pace I know. A pace I know.
Et merci Elodie Suigo. Le monde d'Elodie à réécouter sur l'application Radio France. La météo et un nouveau journal à suivre. Et Christine Peña, le temps en montagne, vent violent, pluie et neige.
Mais oui, exactement. Nous avons ce temps qui est associé à cette tempête Pedro qui traverse le pays. Et en plus, nous avons un risque de vagues et de submersion sur toute la côte atlantique. Donc encore et toujours ces pluies. Mais c'est le dernier jour. Hein. Demain, aura un peu moins d'averses. Progressivement, d'ailleurs, elles vont s'espacer à partir de ce soir. Alors, cette tempête est toujours en place. Elle arrose copieusement le pays pour aujourd'hui et toute la journée. Hein. Les vents violents. On attend des rafales à 140 km/h pour la Tramontane dans le sud. Et les rafales sont très fortes sur la façade atlantique également. Ça va du sud-ouest jusqu'en Méditerranée, jusqu'en Corse. Ces vents violents vont traverser comme ça le pays. La neige tombe effectivement en montagne et le risque de couler de neige est très important. De 4 sur 5 ce matin, elle passera à 5 sur 5 pour cet après-midi. Il faut vraiment rester très prudent. Au niveau des crues, il y a toujours de nombreux départements de l'ouest, du pays environnement. vigilance orange, 4 pour le la vigilance rouge, la vigilance maximale pour la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire pour ces crues majeures. Et puis des températures de saison cet après-midi, on atteint les 10 degrés au nord, 12 dans le sud-ouest, 14 en Méditerranée. Et pour la suite, j'ai vraiment de très bonnes nouvelles, que ça, hein. Je ne ferai
du soleil,
que dans les bonnes nouvelles, de plus en plus de soleil, surtout dans le sud où l'impression sera printanière ce week-end.
Eh ben, on a hâte d'entendre vos bonnes nouvelles, Christine Peña. Et d'ici 6h sur France Info, nous serons en Charente-Maritime et dans le Maine-et-Loire, département, on le disait, qui font face aux inondations, aux crues. Reportage auprès des habitants sinistrés, mais aussi avec des agriculteurs qui subissent de plein fouet cet événement climatique. Et puis nous reviendrons également sur ces Français fortunés qui échappent à l'impôt. En attendant, c'est l'heure d'un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur France Info en ce jeudi 19 février. Bon début de journée, il est 6h30. Et 5h30.
France Info. Jeanne Mézières.
Alors que la France vit un épisode de crue très important avec encore 4 départements en vigilance rouge ce matin. Le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Dans les Alpes, c'est la neige qui pose problème avec 2 épisodes très importants et rapprochés en une semaine. Cette abondance de neige fait courir des risques aux skieurs avec les avalanches. Antoine Geoffin, et cela peut aussi avoir des conséquences dans les stations.
À La Plagne, la moitié du domaine était encore fermée hier à cause du risque d'avalanche. Les équipes s'adaptent, explique Luc Nicolino, chargé de la sécurité des pistes.
Tout le personnel débute plus tôt. Les pisteurs pour déclencher, les gens des remontées mécaniques pour déneiger leurs appareils dans des conditions météo difficiles, le vent, les chutes de neige, le jour qui se lève à peine, des journées très éreintantes et à risque pour ces équipes-là.
Lara est monitrice de ski à Tignes où il a trop neigé. Sur les 10 derniers jours, les télésièges sont restés à l'arrêt 3 jours.
On est obligé de rembourser. C'est annulé, c'est assez compliqué, c'est stressant, ça crée des tensions, les moniteurs sont assez énervés, on est complètement indépendant, donc du coup on a même pas de chômage, on n'a rien. On va prendre sur notre trésorerie sur des jours où on a dû rembourser les gens et ils auront moins de primes en fin de saison les moniteurs.
Station beaucoup plus modeste, à 30 minutes de Chambéry, Savoie Grand Revard a dû embaucher 2 dameurs de plus pour ouvrir 100% de son domaine. Ça valait le coup selon Olan Boucheron, le directeur général.
Dimanche, on a réussi à battre notre chiffre d'affaires record, 100 000 euros sur une seule journée rien que sur le ski alpin. Beaucoup de gens sont venus en se disant « ça risque d'être un peu compliqué d'aller plus loin entre les bouchons, etc. » Ça a été finalement une aubaine pour nous.
Et cette neige, après un début de saison compliqué, permet à la station familiale d'envisager une fermeture plus tardive le 22 mars au lieu du 8.
Antoine Geoffin, 11 gardes à vue toujours en cours dans l'enquête autour de la mort du militant identitaire Quentin de Ronque à Lyon. Parmi elles, 2 des gardes à vue sont des assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud, dont Jacques-Élie Favreau. Ce collaborateur reconnaît sa présence au moment du passage à tabac de l'étudiant, ainsi que la commission de violence. Dans ce contexte, la France insoumise reste sous le feu des critiques, polémiques qui embarrassent aussi le Parti socialiste à moins d'un mois des municipales. Elia Bergel.
Oui, alors que la pression monte sur LFI jour après jour, Jordan Bardella, le président du RN, appelle désormais au cordon sanitaire pour isoler la France insoumise. Les socialistes face à un dilemme. En blâmant trop LFI, ils risquent de se couper d'une potentielle réserve de voix précieuse au second tour des municipales, par exemple à Paris ou Marseille. Mais si les socialistes ne prennent pas assez leur distance, ils peuvent être éclaboussés à leur tour par la polémique. Exercice d'équilibriste donc. Je ne fais pas de lien entre la mort de Quentin de Ronque et LFI, affirme un député socialiste. Objectif ici, ménager les insoumis. Mais il faut aussi essayer de rassurer les électeurs centristes, marquer sa différence, sa désapprobation. Le chef du PS essaye de s'en charger. Pour Olivier Faure, la France insoumise ne peut s'affranchir d'un examen de conscience.
Élie Abergel, service politique de France Info. Une enquête publiée par le Comité national contre le tabagisme révèle que la moitié des buralistes et boutiques de cigarettes électroniques ne respectent pas la loi qui interdit la publicité pour les produits de vapotage. Les affiches colorées ou spots vidéo diffusés sur des écrans sont strictement interdits. Le Comité national contre le tabagisme réclame des emballages neutres pour les produits de vapotage, sans marque et sans couleur. Encore une médaille d'or hier pour le biathlon français. Les femmes conservent leur titre sur le relais. La délégation française est 4e au classement des médailles ce matin. Aujourd'hui, place à une nouvelle discipline, le ski alpinisme, que l'on suivra sur France Info, 5h34.
France Info, 5h-6h, Jeanne Mézières.
Cela fait une semaine que des crues ont lieu en France avec des rivières, des fleuves qui débordent, contraignant des habitants à quitter leur domicile. France Info est en édition spéciale tout au long de la journée depuis la Réole en Gironde où l'eau a envahi les rues. Le département est en vigilance rouge depuis 8 jours. D'autres sont aussi concernés par l'alerte maximale. Le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime ce matin. La situation ne s'arrange pas avec la nouvelle tempête Pedro et pour que les opérations de pompage puisse commencer. Il faut attendre que le pic des crues soit passé, explique Alexandre Joissard de la Sécurité civile, chef adjoint du Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise.
Ces actions de pompage, elles ont déjà commencé dans certains secteurs qui, eux, ont atteint le pic de crue et elles vont être particulièrement massives en fin de cette semaine, donc vendredi et samedi, avec des moyens de pompage lourds qui vont être développés par les moyens nationaux de la Sécurité civile. Et puis des renforts extra-zonaux qui vont venir de l'ensemble des zones non impactées. Donc il y a la zone nord, la zone parisienne, la zone Île-de-France et puis la zone est et sud-est qui vont envoyer des moyens pour pouvoir renforcer cette zone sud-ouest et ouest qui sont particulièrement touchées par ces événements. Et vous l'avez dit, il y a la tempête Pedro qui malheureusement ne va pas nous aider avec des forts vents, avec aussi des précipitations supplémentaires. Donc le travail du jour là du centre opérationnel, ça a été d'anticiper, de coordonner les moyens grâce à la chaîne préfectorale, mairie, qui fonctionne à plein régime avec des élus locaux qui activent leur PCS, leur plan communal de sauvegarde, et puis les préfets qui nous donnent les informations en temps réel en termes de besoins de renforts capacitaires.
Qu'est-ce que vous redoutez le plus avec cette tempête Pedro qui vient se rajouter déjà aux crues existantes ?
C'est la non-possibilité de pouvoir pomper les eaux et de pouvoir réduire ces volumes d'eau, puisque si on rajoute des précipitations supplémentaires ou des vents qui contraignent le courant, ça impacte directement nos équipes pour le travail. Et puis la Seine augmente, il y a d'autres régions, le Maine-et-Loire qui était basculé en vigilance rouge. Donc ça veut dire une augmentation, une extension du risque de crue sur d'autres cours d'eau, et donc ça veut dire une multiplication de sollicitations et de moyens à développer. Mais pour le moment, la sécurité civile est organisée de manière à pouvoir subvenir aux différentes demandes. Comme je vous le disais, il y a un certain nombre de départements ou de zones qui ne sont pas touchés et la solidarité nationale fonctionne à plein régime sur l'organisation de nos moyens secours.
Alexandre Joissard de la Sécurité civile avec Julien Langlais. Les conséquences de ces crues se voient dans nos champs, parfois inondés avec une terre qui ne parvient plus à absorber l'eau. Les dégâts sont déjà importants, alerte Cédric Trancard, agriculteur en Charente-Maritime et président de la commission environnement du syndicat FNSEA.
Des dégâts importants dans les cultures avec de l'eau qui va stagner, qui monte encore aujourd'hui, avec des populations un petit peu affolées aussi, parce que la montée s'est faite très très vite. Et on a aussi des problèmes sur des élevages qu'il va falloir peut-être déplacer, et des problèmes aussi d'enlèvement de lait, parce que des camions ne peuvent plus prendre les routes pour aller récupérer le lait dans les fermes. Et ça pose des gros problèmes économiques quand même.
Quels sont les secteurs d'activité les plus impactés ? Est-ce que ces dégâts sont irréversibles ?
Pour les cultures aujourd'hui, les dégâts sont irréversibles. Parce que c'est des cultures qui vont être sous l'eau pendant plus de 4 à 5 jours et donc qui, en manque d'oxygène, une culture ne peut pas survivre. Et donc ça va être une catastrophe pour les zones complètement inondées.
Ça veut dire que c'est perdu ou ça peut se rattraper un peu plus tard si l'eau évidemment s'évacue ?
Effectivement, si on était sûr que la décrue se fasse avant la fin de la semaine, c'est-à-dire il faudrait que ça se fasse vendredi ou au pire samedi. On pourrait peut-être encore espérer sur certaines cultures. Mais si ça attend dimanche ou lundi, ça va être perdu, complètement perdu pour certaines cultures.
Est-ce que vous savez combien d'agriculteurs, combien d'éleveurs d'ores et déjà sont concernés ? Et est-ce que vous avez déjà estimé le montant des dégâts ?
Pour les éleveurs, on a 4 à 5 éleveurs qui vont être en souci d'ici demain. Et donc, tout est mis en œuvre avec la préfecture et la Chambre d'agriculture pour faire le maximum pour eux. Et pour les dégâts, on va attendre la décrue. On ne veut pas être trop alarmiste non plus. On croit aussi en la nature et on espère. Malheureusement, avec les pluviométries qui arrivent encore, les espoirs s'amenuisent.
Comment vous analysez la situation ? Est-ce que peut-être vous allez faire le point aussi une fois l'événement passé pour essayer de prendre des mesures ?
Prendre des mesures, oui, bien sûr. Quand on a affaire à des phénomènes climatiques comme celui-là, presque plus de 400 mm sur le département de la Charente-Maritime depuis le 1er janvier, on ne peut jamais prévoir ça. Il faut qu'aujourd'hui les moyens soient mis en place au maximum, tout ce qu'on peut anticiper. Ces choses-là, je pense que on ne peut pas anticiper sur la nature. Par contre, ce que l'on pourrait anticiper, on le voit aujourd'hui, c'est qu'avec des quantités d'eau comme ça, si on en stockait ne serait-ce qu'une petite partie, ça pourrait servir à l'agriculture pour l'été.
De quelle manière faire cela ?
Aujourd'hui, il y a des solutions très simples. On a des terres à niveau zéro de la mer. Il suffirait juste de faire quelques petites digues et quand l'eau monte l'hiver, de pouvoir la retenir pour le reste de l'année. Et ça serait facilement faisable. Et ensuite, il y a les réserves de substitution qui aujourd'hui prendraient tout leur sens et pourraient être remplies avec cette eau-là. Et cette eau qui serait en moins dans les inondations aussi.
Les inondations qui se voient aussi sur les routes, certaines sont fermées depuis plusieurs jours. Des habitants ont dû quitter leur domicile, mais il y a aussi ceux qui souhaitent rester chez eux. C'est le cas dans le Maine-et-Loire où vous êtes, Boris Allier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez tenté de rejoindre Béhuard, un village d'une centaine d'habitants situé près d'Angers, qui est aujourd'hui totalement coupé du monde.
Oui, habituellement, les habitants de ce village, enserrés entre deux bras de Loire, peuvent emprunter une route. Là, impossible. Même une paire de bottes ne suffit pas, le courant est trop fort. Pour rencontrer des habitants, il faut donc attendre sur la berge. Gilet de sauvetage sur les épaules, Pascal arrive à bord d'une barque avec son mari pour faire des courses.
Ça fait que 3-4 jours qu'on est inondé, donc on avait déjà prévu avant. Là, c'est pour les 3-4 jours à venir qu'on se ravitaille.
Moi, la mienne, il y a 50 cm d'eau dans la maison, donc j'en ai jusqu'aux genoux à peu près.
Armelle, elle aussi, est venue se ravitailler sur la terre ferme et malgré son rez-de-chaussée inondé, elle rentrera chez elle avec ses provisions.
On n'a pas le choix, de toute façon. Quand on choisit de vivre à Béhuard, ça fait partie des inconvénients ou des joies aussi. Il y a de l'entraide, on appelle les uns et les autres.
Et on dort bien quand on sait que la Loire coule dans sa maison ?
On se réveille plus tôt que d'habitude pour aller voir combien ça a pris la nuit. Il y a de l'eau partout, partout, partout. Vous verriez ça du ciel, c'est magnifique, ça, c'est un grand champ d'eau.
Malheureusement, les journalistes ne sont pas invités. Les barques restent réservées aux habitants. Il faut donc prendre le téléphone pour contacter ceux qui sont restés chez eux.
Oui, allô ?
Comme Karine.
Alors là, je suis dans la cour de ma maison. Et en fait, la cour s'est transformée en petit port. Donc, mon embarcation, mon canoë, là, qui me sert à sortir, qui est garé à la place de la table. Et là, je marche dans l'eau et j'ai de l'eau jusqu'à la taille, à peu près.
Elle l'assure, ici, tout est conçu pour faire face aux crues.
On a très peu de bitume. Et donc, vraiment, nous, on absorbe et on laisse passer l'eau. Les constructions ne sont plus permises depuis l'an 2000. Les façades sont enduites de chaux de Loire. La chaux de Loire, c'est un mélange de sable, d'eau et de chaux qui vient recouvrir les façades et qui permet une meilleure respiration des murs. Tant et si bien que même s'il pleut ou s'il y a la crue, l'eau va finir par passer et ne moisira pas.
Et les Béhuardais vont devoir patienter avant de retrouver une vie normale puisque la Loire va continuer à monter encore aujourd'hui.
Reportage de Boris Allier dans le Maine-et-Loire pour France Info. Et je vous rappelle que France Info est en édition spéciale aujourd'hui face aux crues depuis l'Aréole en Gironde, tout au long de la journée donc. On s'intéresse ce matin aux impôts des plus riches. Il y a quelques semaines, l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard affirmait que des milliers de Français fortunés ne payaient aucun impôt sur le revenu. Réaction immédiate de la ministre des Comptes publics qui assure que ce n'est pas vrai. Bonjour Camille Revel.
Bonjour.
Depuis, les parlementaires ont demandé des comptes et ce matin, on a de premiers éléments de réponse de la commission des finances du Sénat.
Son président, le socialiste Claude Raynal, nous assure Éric Lombard avait raison. La commission a obtenu des documents de la part de la Direction générale des finances publiques. Le fisc a croisé les données de l'impôt sur le revenu et celles de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, auquel on est éligible lorsque notre patrimoine immobilier dépasse 1,3 million. Au bilan, 13 335 Français assujettis à l'IFI, soit un peu plus de 7% du total, n'ont donc payé aucun impôt sur le revenu en 2024, voire ont touché un remboursement. Fait marquant, précisent les sénateurs, plus le patrimoine immobilier est élevé, plus la proportion d'impôt sur le revenu nul ou négatif augmente. Exemple le plus extrême mentionné, un foyer fiscal qui détient 142 millions d'euros de patrimoine immobilier et n'a donc payé aucun impôt sur le revenu.
Et Camille, comment explique-t-on cette situation ?
D'abord, il y a les cas de retraités qui ne touchent pas une grosse pension, mais qui sont propriétaires et dont la valeur des logements a augmenté avec la hausse du prix du mètre carré. Au début des années 2000, par exemple, on a beaucoup parlé de certains habitants de l'île de Ré qui se sont retrouvés dans cette situation, éligibles à l'époque à l'impôt sur la fortune, l'ISF. Ensuite, vous avez des exonérations de revenus, il y a aussi les crédits, les réductions d'impôts, mais ça n'explique pas tout. Claude Rénal pointe de possible comportement d'optimisation fiscale agressif. Un rappel peut-être sur ce que c'est que l'optimisation fiscale, c'est une pratique qui consiste à utiliser des mécanismes légaux pour payer moins d'impôts, parfois en exploitant des failles ou des imprécisions de la loi. Ça peut être par exemple le recours à des holdings dont on a beaucoup parlé pendant l'examen du budget. Mais il est impossible, en tout cas à ce stade, de mesurer l'ampleur d'une telle optimisation.
Quelle est la réaction de Bercy, Camille ?
L'entourage d'Amélie de Montchalin nous explique avoir pris connaissance de ces données en même temps que la commission des finances du Sénat. Il appelle à interpréter ces éléments avec prudence. Les données disponibles ne permettent en aucun cas de conclure à l'existence de milliers de millionnaires ne déclarant aucun revenu, poursuit Bercy, qu'il assure des investigations complémentaires sont en cours afin de mieux caractériser ces situations.
Camille Revel, Service Économie et Sociale de France Info, un nouveau tour de l'actualité à suivre.
France Info, 5h-6h.
À 5h45, l'info en une minute, Maureen Suignard à la une, la montée des eaux n'est pas terminée.
La Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire sont encore en vigilance rouge pour un risque élevé de crue. La faute à de nouvelles pluies liées à la tempête Pedro. 11 personnes sont toujours entendues par la police après la mort de Quentin Derenc à Lyon, le militant identitaire roué de coups la semaine dernière. L'ancien assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, un député de la France Insoumise, a avoué en garde à vue qu'il se trouvait bien sûr les lieux de l'agression et qu'il avait commis des violences. Ils ont l'interdiction de faire de la publicité pour les cigarettes et pourtant ils sont nombreux à ne pas respecter la loi. Plus de la moitié des buralistes et des boutiques de cigarettes électroniques selon l'enquête du Comité national contre le tabagisme. Et puis c'est officiel, Habib Baye est nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'ancien coach du Red Star et du Stade Rennais n'est pas étranger à Marseille, il a été capitaine de cette équipe.
France Info.
11 personnes toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur la mort de Quentin Derenc, militant identitaire frappé dans une rue lyonnaise il y a une semaine. Ces personnes interpellées sont pour la plupart liées au groupe antifasciste La Jeune Garde dissous l'an dernier. Julie-Marie Lecomte, ce qui nous fait nous poser cette question ce matin, ces dissolutions sont-elles efficaces ?
35 ans de métier, 27 sur le terrain dans la métropole de Lyon. Des groupuscules violents, Christophe Pradier dit qu'il en a toujours connu. D'abord d'ultra-droite avant que l'ultra-gauche ne s'impose plante pour riposter.
Sur les 20 dernières années, effectivement, ça monte en puissance.
Pour ce policier, les dissolutions n'ont jamais rien réglé.
C'est très bien que, quoi qu'il en soit, ils vont remettre le couvert. À part politiquement, en parlant, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est de mettre nous, en tant que policiers, en difficulté. Parce qu'en fait, lorsque vous avez un groupuscule qui est bien connu, pour nous, c'est beaucoup plus simple de savoir où ils sont, tout simplement. Lorsqu'on les dissout, on va de nouveau les perdre et il va falloir de nouveau les reçuivre.
À Lyon, les militants identitaires d'Audace, par exemple, sont des anciens du Bastion Social, dissous en 2019. La Jeune Garde antifasciste a été dissoute l'an dernier. Ses membres militent désormais sous la bannière Éteignons la flamme. Christophe Pradier, aujourd'hui secrétaire départemental de l'UNSA Police, dit que ses collègues s'épuisent dans un travail sans fin.
C'est un petit peu comme les points de deal, j'ai envie de dire. Un point de deal, aujourd'hui vous le démantelez, le lendemain il recommence ailleurs ou même à côté avec d'autres personnes et puis c'est reparti pour un tour. Au moins pendant quelques temps, on élimine des circuits ces personnes-là. Alors que lorsqu'on dissout des groupuscules, en fait, on dissout juste l'association. Les hommes sont là avec les mêmes idées. Ça peut même avoir, j'ai envie de dire, un double effet qui se coule. Si on m'a dissous, c'est que je suis dangereux. Donc les gens se sentent peut-être encore plus forts. J'ai envie de recommencer. Et puis, vous voyez, on nous a dissous. Venez avec nous parce que nous, on est forts. Et voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est presque pas bon, en fait, de dissoudre quelque part.
Reconstituer un groupe violent est aujourd'hui puni de 7 ans d'emprisonnement. Y participer, c'est risquer 5 ans. Le syndicaliste plaide pour des sanctions plus fortes en espérant que ce soit dissuasif.
Un reportage à Lyon de Julie-Marie Lecomte pour France Info. 5h48, voici le choix de France Info, consacré ce matin au patinage artistique, discipline des Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment à Milan-Cortina. C'est la dernière épreuve, aujourd'hui le programme libre dames. Mais il y a 6 ans, en 2020, le monde du patinage français a été secoué quand l'athlète Sarah Abitbol a pris la parole et accusé son entraîneur de viol dans les années 90. Bonjour Benjamin Hilly.
Bonjour.
Depuis, la Fédération française des sports de glace a réagi, comme vous l'avez constaté à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne, à la patinoire du Club des Sports.
Accélère, glisse, glisse.
Oui, dans ce club affilié à la Fédération française des sports de glace.
Accélère.
Avec plus de 400 adhérents.
On peut revenir resserrer le long du corps, s'il te plaît.
Dont plusieurs qui évoluent sur les circuits internationaux, juniors ou seniors.
Ok, Valentin.
Dans ce club, que les choses soient claires.
Ah ouais, s'il te plaît.
Il n'y a pas d'omerta à avoir, c'est terminé cette époque-là.
Je suis pas contre.
Aujourd'hui, la priorité, c'est le bien-être de l'enfant.
Vas-y, loulou.
On n'a jamais eu de problématique de violence, qu'elle soit psychologique, mentale, physique ou après des dérives comme il y a pu y avoir dans le livre de Sarah Abitbol sur de l'attouchement, de l'agression ou pire au niveau sexualité.
Le président du club, Sébastien Télémac.
C'est justement quand on n'en parle pas que des choses peuvent se produire, donc il ne faut absolument pas oublier d'en parler.
Si on prend l'exemple d'un club comme le vôtre, qu'est-ce qui est fait pour éviter tout type d'abus?
Avant, on avait les entraînements avec les vestiaires, avec tout le monde partout, n'importe où. Garçons, filles, à 95%, c'est que des mineurs, mais il pouvait y avoir un majeur de 18 ou 19 ans dans un vestiaire avec des enfants de 6-7 ans. Là, aujourd'hui, les vestiaires sont dissociés, les filles sont d'un côté, les garçons de l'autre. On fait très très attention à ce qui s'y passe et qui rentre dans les vestiaires.
Ouais, et j'aimerais bien que ça retarde encore un peu plus sur la sortie de l'épaule.
Alors nous, on a eu l'obligation, mais on l'avait commencé un an auparavant, de faire des formations et de s'affilier à une association qui gère justement ces problématiques-là et ces sujets-là. Et nous, on est avec Colosse au pied d'argile.
Ouais, allez, on va le chercher plus loin.
Bonjour, c'est vous la référence?
S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir.
Et hop!
La fédération a mis en place également en 2025 le dispositif des référents sentinelles dans chaque ligue et progressivement dans chaque club. L'objectif est de mieux recueillir la parole et améliorer la prévention. Au club de Damary-les-Lys, la référente est une bénévole.
Il faut être formé aussi.
Vous avez été formé?
Pas encore officiellement, je me tiens en veille par rapport à ça.
Christelle Noirit.
On a eu des problèmes de communication. C'est principalement entre les élèves eux-mêmes, entre les ados. Dès qu'on entend des choses qui ne devraient pas se dire et qui pourraient dériver.
Vous intervenez?
Tout à fait. C'est défendre. Pas que l'enfant se retrouve seul, la personne se retrouve seule, hein, même si c'est une adulte. Ne pas être seul face à ça, si ça arrive.
C'est la surfaceuse. Vous êtes entraîneur?
Je m'appelle Coralie Grenier.
Je viens ici 6 ans après l'affaire Abitbol.
La prise de parole de Sarah a fait beaucoup de bien pour le harcèlement moral et sexuel. Nous, on a eu beaucoup de formations au niveau de la fédération et plusieurs organismes. J'ai beaucoup de collègues, hommes, qui du coup font très 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 attention. Il y a beaucoup de corrections, on doit prendre les bras, les mains des enfants et leur montrer une posture et changer leurs épaules. Et c'est vrai que c'est des gestes qui font peur à certains entraîneurs maintenant et qui ne permettent plus du tout de le faire pour qu'il n'y ait aucun geste qui soit mal pris.
Oui, on attaque sur triple.
Que ce soit à l'école, à la maison, dans son sport, en patinage, n'importe où, s'il y a un problème, il faut en parler.
Valentin, pareil sur triple.
Bonjour, je m'appelle Clémence Maindou, j'ai 21 ans et je suis patineuse artistique. Je suis championne de France junior en 2023 et j'ai fini 4e des championnats de France et 5e. Bah, j'ai toujours été vigilante parce qu'on est quand même dans une génération où même à l'école on en parle quand même, enfin, de savoir que notre corps nous appartient et que c'est pas tout le monde qui peut le toucher.
C'est quoi votre message à des jeunes patineuses qui aimeraient se lancer?
C'est vrai qu'on est dans un milieu où on se compare beaucoup, où on nous compare beaucoup. Et aujourd'hui, enfin, avec ma génération, c'est vrai qu'on a un peu lâché tout ça. Enfin, on sait que maintenant, il n'y a plus un corps de patineuse. Enfin, par exemple, je suis noire, je suis grande. J'ai le sentiment que tout le monde a accepté, qu'il n'y a plus vraiment cette pression de « il faut absolument que tu sois mince ».
Aujourd'hui, vous pensez que le milieu du patinage vit avec son temps et avec une ouverture d'esprit qui n'était peut-être pas là quand vous avez démarré?
Ouais, complètement. Ça commence. Enfin, on peut toujours s'améliorer.
Ouais.
Donc on est sur le bon chemin.
Vachement bien ça.
Respect, bienveillance, sécurité, assumer le passé. C'est la promesse de la Fédération française des sports de glace que nous avons contactée. Elle nous indique être déterminée à traiter tous les problèmes, ne plus rien laisser passer, en continuant notamment d'étendre son réseau Sentinelle et en s'engageant à former les référents dans les clubs dans les prochains mois.
Le choix de France Info de Benjamin Hilliard, trouvé sur franceinfo.fr. Dans un instant, la playlist de Maureen Suignard et cette surprise de U2. Mais tout de suite, l'actualité de l'économie.
Le réveil de l'écho avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité économique en trois titres. Les Français consomment de plus en plus de volailles, mais importées.
Oui, nous en avons acheté près de 3,5% de plus l'an dernier qu'en 2024, pour passer de 26 à 32 kilos par personne à l'année. Alors c'est plus que n'ont pu produire les éleveurs français, d'où des importations nécessaires de volailles, en hausse donc dans le même temps de près de 10%. Selon l'interprofession, notre consommation de poulet augmente depuis plusieurs années, tirée par la restauration et les produits transformés du type nuggets. Alors si les éleveurs exportent quelques pièces de volaille peu consommées en France, ils sont en déficit commercial d'1,7 milliard d'euros. Et si la France voulait être autosuffisante en volaille en 2035, eh bien il faudrait construire autour de 220 poulaillers par an, et ce pour des coûts d'investissement d'environ 3 milliards d'euros d'ici 10 ans.
L'armateur marseillais CMA-CGM signe un gros contrat avec l'Inde.
Oui, le groupe français, deuxième armateur maritime mondial, reçoit de New Delhi une commande ferme de 6 porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié. Annonce du patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui accompagne le président de la République Emmanuel Macron en visite officielle. Montant de la commande, 300 millions de dollars, ce qui fait environ 255 millions d'euros.
L'Inde toujours, avec Google qui va y installer des câbles sous-marins.
Oui, le pays sera le point de départ d'un nouveau réseau de câblage immergé, avec pour objectif de doper les capacités en matière d'intelligence artificielle de la région désormais la plus peuplée de la planète. Alors concrètement, 3 liaisons sous-marines Google relieront l'Inde à Singapour, à l'Afrique du Sud et à l'Australie. 4 liaisons de fibre optique renforceront par ailleurs les connexions qui existent entre les États-Unis, l'Inde et d'autres régions de l'hémisphère sud.
Merci Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Bref Éco.
Les vols de voitures ont baissé l'année dernière en France. Des vols freinés par les systèmes de sécurité toujours plus sophistiqués, mais qui poussent justement les voleurs à être de plus en plus chevronnés. C'est le vol high-tech, en quelque sorte.
5h55 sur France Info, l'heure de la playlist avec vous, Maureen Suignard. Vous nous parlez ce matin du tout dernier album de U2.
D'habitude, ces choses-là, ça se prépare. On connaît les dates de sortie des semaines à l'avance. Alors, on savait que quelque chose se tramait du côté de U2, qui n'avait rien sorti depuis 2017, mais le groupe irlandais a quand même surpris tout le monde à 18h hier. U2 dévoile sans prévenir une sorte de mini-album Days of Ash, Jour de cendre. Ces titres sont très différents en termes d'ambiance, mais ils se rejoignent sur une chose, ils sont tous très politiques. American Obituary, que vous entendez, est le premier morceau. Il est inspiré de Renée Nicole Good, cette mère de famille tuée par des agents fédéraux alors qu'elle s'opposait aux actions de la police de l'immigration américaine. C'était à Minneapolis début janvier. Je t'aime plus que la haine, aime la guerre, répète le chanteur Bono dans ce refrain. L'amour, la compassion plutôt que la violence et le désespoir. Thème repris dans le deuxième morceau plus acoustique qui emprunte des écrits de poètes juifs. Il y a aussi cet hommage à cette lycéenne iranienne battue à mort en 2022 lors des manifestations Femmes, Vie, Liberté. Et puis il y a bien sûr un cri du cœur pour l'Ukraine. Yours Eternally a été enregistré et coécrit avec Ed Sheeran et Tara Topolia, un musicien ukrainien qui a dû prendre les armes après le début de la guerre menée par les Russes. Les mots sont ceux d'un soldat qui rêve toujours de se réveiller libre. Ces nouveaux morceaux sont des chansons de défiance, de consternation et de lamentation, a dit hier le chanteur Bono, qui regrette de vivre à 65 ans une période folle et exaspérante. Ce n'est pas la première fois que le groupe s'engage et évoque les thèmes de la guerre et de la politique. L'un de ses tubes, Sunday Bloody Sunday, sorti en 83, dénonçait déjà la violence exercée lors d'une manifestation en Irlande du Nord. Alors que le groupe fête son 50e anniversaire cette année, il montre qu'il n'a rien changé de son ADN.
Et ça fait du bien de commencer la journée avec U2. Toujours. Merci Maureen Suignard pour la playlist de France Info. La météo à suivre. Christine Peña, pas d'amélioration avant demain.
Mais non, pas avant demain, effectivement. À partir de ce soir, quand même, les averses vont s'espacer un peu. Mais là, on a une carte pour aujourd'hui bien chargée. J'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer en ce moment. Avec le passage de cette tempête Pedro, une nouvelle tempête, nous gardons 4 départements en vigilance rouge et 21 en orange. Depuis hier, d'ailleurs, la Bretagne n'est plus en vigilance, plus inondation, mais garde le risque important de crues. La Haute-Vienne a été ajoutée à la vigilance crue à 22h hier soir. Et outre les crues, il y a aussi la vigilance pour vent violent sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, pour la Tramontane qui devrait souffler à près de 140 km/h quand même. Et puis, il y a toujours 4 départements alpins pour le risque d'avalanche. Attention, enfin, toute la façade atlantique est en vigilance orange pour le risque de vagues et submersion. Je voulais le préciser, elle devrait en sortir à 9h tout à l'heure. La pleine mer sera passée. Les vents violents génèrent de fortes vagues sur toute la façade atlantique associée à ces forts coefficients de marée. On est à 96 ce matin, j'ai vérifié. Au moment de la pleine mer, les débordements sont possibles. Alors, du Finistère jusqu'à la côte basque et landaise, vraiment tout le littoral. Mais surtout, ces fortes vagues et le niveau élevé de la mer empêchent les rivières et les fleuves de s'écouler vers la mer. Ça fait comme un bouchon, voilà. Comme le vent s'orientera au nord-ouest cet après-midi et non plein ouest comme ce matin, la situation sera un peu moins critique pour la pleine mer de ce soir. Les horaires à Brest, 6h ce matin, à La Rochelle et Bayonne, c'est en ce moment.
Et merci Christine Peña, presque 6h sur France Info. Je vous laisse en compagnie de Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Merci, bonjour Jeanne et à tout à l'heure pour le journal de 7h. Merci effectivement Christine Peña, vous restez dans les parages parce que c'est très important. Cette situation, on va la suivre de près, de très près même, puisque habituellement à 7h6, je salue William Gay-Costa.